Alors, mardi, en effet, nous avons commencé les films. Il y avait 25 personnes qui ont regardé le film La famille Bélier. Et on y fera déjà l'une ou l'autre allusion. Ça ne veut pas dire que les autres ne comprendront rien. On essaiera d'expliquer. Mais voilà, c'est pour que ceux qui ont fait cet effort puissent en profiter davantage.
Voilà, bonsoir à tous. La semaine dernière, nos deux exposés sur les relations fondamentales à Bernard Potier et à moi-même ont fait en quelque sorte un grand écart. Je suis partie de notre fondement relationnel humain en vous donnant des exemples d'outils qu'on peut utiliser pour prendre conscience de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit actuellement. Le but était de se rendre compte du fait que l'amour et la générosité ne suffisent pas à construire quelque chose de normal sur le plan psychologique. Il faut réfléchir aussi à la justesse des relations. Et si on n'est pas à une place juste, même s'il y a beaucoup d'amour, on va construire de la souffrance et de la maladie. Bernard, lui, est parti de l'extrême opposé, le mystère de la Trinité. Est-ce que la théologie, quand elle nous parle des relations trinitaires, peut nous aider à penser la justesse de nos relations ? Alors Bernard en est convaincu, moi aussi, mais nous ne sommes pas encore très loin dans le cours pour que cela devienne plus concret pour vous, et c'est apparu effectivement dans les questions dans le débat. Mais peut-être c'est l'occasion aussi de vous dire que nous ne faisons pas nos exposés à deux voix pour construire une théorie syncrétique psycho-spirituelle. Hein? Non, il faut, je pense que les psys restent des psys, hein? Même s'ils sont chrétiens, qu'ils gardent le discours habituel des psys pour rester en relation avec la communauté scientifique. Et il faut que les théologiens restent des théologiens, des accompagnateurs spirituels, des accompagnateurs spirituels. Par contre, nous pensons qu'un dialogue entre nous, qui pensons tous les deux à partir de nos disciplines respectives, les mêmes sujets, les mêmes thèmes, que ce dialogue peut nous aider et peut vous aider, enfin c'est ce qu'on espère, à penser pour vous-même ce lien entre ce que vous croyez, votre foi, et ce que vous vivez dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc on ne va pas essayer de réduire ce grand écart, mais on va essayer vraiment d'être en dialogue avec vous et entre nous. Lors du premier cours, pour ceux qui étaient là, nous avons cité Robert Neuburger, qui est un des piliers de la systémique, qui a été aussi psychanalyste au départ. Il fait partie du courant constructiviste et il a écrit un livre qui s'appelle Le mythe familial, qui est un grand classique de la littérature systémique. Pour Neuburger, le mythe familial est l'ensemble des valeurs et des croyances, conscientes et inconscientes, qui soudent un groupe familial dans une identité commune et permettent donc de construire un sentiment d'appartenance aussi. Chaque famille a des croyances qui concernent le bien et le mal. Qu'est-ce que c'est un bon couple? Qu'est-ce que c'est être une femme? Qu'est-ce que c'est être un homme? Qu'est-ce que c'est être un bon chrétien si on est chrétien? Comment doit se comporter un garçon, comment doit se comporter une fille, etc., etc. Les croyances religieuses font aussi partie du mythe familial. Une croyance est une représentation de la réalité, comme on l'a dit aussi au premier cours, qui prend un statut de vérité pour une personne ou pour un groupe. Et donc ce mythe, il doit aussi être nourri par ce qu'on va appeler un matériel symbolique. Bernard va en reparler dans la deuxième partie aussi. Et ce matériel symbolique, c'est un contenu philosophique ou religieux, culturel, que les parents vont devoir transmettre à leurs enfants et leurs adolescents pour qu'ils puissent penser les questions existentielles qui vont se poser à eux. Pourquoi je vis? Pourquoi on meurt? Pourquoi on souffre? Pourquoi il y a des enfants handicapés, etc., etc. Si on ne reçoit que des relations affectives et qu'on ne reçoit pas ce matériel symbolique pour penser les grandes questions, il va y avoir des problèmes. Alors il y a trois niveaux mythiques qui nous constituent. Nous avons tous un mythe individuel, Nous avons appartenu à une famille, nous appartenons à une famille qui a son mythe propre, et il y a un ou des mythes dans la société dans laquelle nous vivons. Il y a conflit mythique lorsque nous sommes blessés par les croyances d'un autre, dans les croyances qui constituent notre identité. Alors, en thérapie ou en accompagnement spirituel, on peut être confronté à ces conflits mythiques qui bloquent alors le travail et la possibilité de construire une alliance relationnelle ensemble. Je vais donner un exemple clinique tout à l'heure. Alors, comment on sait qu'on est pris dans un conflit mythique ? On est pris dans un conflit mythique quand on se met à juger la personne qu'on écoute. On est pris dans des émotions négatives en disant « enfin pourquoi elle dit ça ?» ou « pourquoi il dit ça ?» c'est pas du tout juste, etc. Et donc il y a comme un rejet de l'autre qui se met. Alors c'est très important de pouvoir repérer ça, parce que quand on est dans un conflit mythique avec quelqu'un et qu'on veut construire une alliance avec cette personne, il faut faire un travail d'archéologie des croyances de l'autre. Donc il faut pouvoir essayer de comprendre comment l'autre a construit ses propres convictions et aussi s'interroger sur « tiens, pourquoi est-ce que c'est tellement important pour moi ce que je crois ?» Et donc c'est cette histoire de la construction identitaire, de la construction du mythe qui va permettre le dialogue. Alors, les mythes et les conflits mythiques aujourd'hui, qu'est-ce que je rencontre dans ma clinique au niveau de la manière dont les pensées nouvelles dans la culture arrivent dans les familles? Je vais prendre comme exemple la manière dont la théorie du gender arrive dans le discours des familles d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des théories de genre, c'est une remise en... Enfin, il y a un mythe comme si on pouvait choisir son identité sexuelle. Même si on a un corps de garçon, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être une fille ou choisir qu'on est une fille si j'ai un corps de fille, avoir un corps de garçon, etc. Remise en question aussi de la culture qui influencerait l'identité sexuée, etc. Alors, voilà, je vous parle d'une famille. J'ai mis le génogramme au tableau. Donc, c'est une famille où il y a deux filles, Myrtille et Lune. Et celle que j'ai entourée deux fois, c'est Lune qui a 6 ans, qui est la plus jeune. Et elle arrive avec ses parents parce qu'il y a beaucoup de conflits dans la famille. Et voilà, l'ambiance n'est pas bonne, on se dispute tout le temps. La grande sœur a 9 ans, Myrtille. Et Lune particulièrement met sa mère en difficulté émotionnelle. Madame explose régulièrement parce que Lune fait la sourde oreille, elle n'obéit pas et elle fait beaucoup de bêtises. Alors dans la famille, c'est Madame qui exerce la fonction d'autorité en première ligne. Monsieur remplace Madame quand elle travaille. Monsieur est artiste et Madame chef d'entreprise. Lune et sa sœur se battent comme chien et chat tous les jours. Mais au départ, c'est quand même Lune qui est désignée comme le problème de la famille, le symptôme de la famille. Lune explose comme sa maman, alors que Myrtille est calme comme son papa, mais ça l'empêche pas de pincer sa petite sœur en cachette, etc. Et elle sait très bien comment elle doit faire pour que la petite explose. Alors, quand une famille me consulte pour un enfant, je ne décide jamais tout de suite de prendre l'enfant en thérapie individuelle. Donc je ne vais pas prendre en individuel l'enfant que les parents présentent comme symptômes. Je vais d'abord être attentive à qu'est-ce qui se passe dans les relations dans la famille. Et quand j'aurai travaillé avec toute la famille sur les relations problématiques, si l'enfant qui a été présenté comme ayant un problème a toujours son problème, là peut-être je vais commencer à travailler en individuel avec les parents par ailleurs en guidance. Donc je vous rappelle ce que j'avais dit au premier cours, qui est aussi une directive que donne Robert Neuburger. Si la demande, la souffrance et le symptôme sont chez la même personne, on peut travailler en thérapie individuelle. Si la demande, la souffrance et le symptôme sont répartis sur plusieurs personnes dans un groupe, une communauté ou une famille, il faut travailler en relation. Ici c'est la maman qui appelle, donc la demande c'est la maman. C'est la maman qui souffre le plus, mais en fait, toute la famille souffre quand même, et c'est l'une qui a les symptômes les plus insupportables pour la famille. Alors, dans ce travail relationnel, je demande aussi aux parents de raconter ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants avec leurs propres parents. Le mythe qui nous constitue est en grande partie inconscient, mais il s'est construit à partir de ce que nous avons vécu dans notre famille d'origine. Et quand on forme un couple, eh bien, on arrive avec toute cette histoire et ces croyances qui se sont construites, et on garde certaines choses ensemble, et on choisit de construire aussi du nouveau par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Ça se fait en partie consciemment dans le couple, mais en partie toujours inconsciemment aussi. Alors c'est sûr que les différences de culture vont beaucoup jouer dans ces constructions mythiques. On verra ça particulièrement dans le deuxième film « Ne m'abandonne pas ». Les religions, les différences religieuses aussi. Mais il y a aussi un autre facteur qui va intervenir, c'est la cohérence ou l'incohérence entre les paroles qu'on a reçues, entre le discours des parents, les valeurs qu'ils veulent transmettre par la parole, tu dois obéir à ça, tu dois réussir ça, etc. Et ce qu'ils transmettent de par leur relation entre eux et leur relation à l'enfant. Donc, ce n'est pas que le discours qui va transmettre les valeurs. Si l'idéal n'est reçu que comme un discours, mais que l'enfant ne voit pas ou ne sent pas qu'on vit ça dans la famille, qu'il ne sent pas que les valeurs imprègnent les relations, ben, ça ne va pas passer. Alors, on revient à notre famille. Monsieur vient d'une famille très nombreuse. Ses parents avaient du mal à donner une place à chaque enfant, donc vous voyez la famille d'origine de monsieur. Il fallait être solidaire, il fallait s'entraider, parce qu'il y avait un enfant très handicapé dans la famille, qui vivait dans la famille, et donc tout le monde était mobilisé pour aider les parents à prendre en charge cet enfant. On n'avait pas le temps de s'apesantir sur ce qu'on ressentait, ce qu'on avait vécu à l'école, etc. Voilà, il y avait du boulot pour tout le monde. Madame, elle a souffert du divorce de ses parents. Elle a quasi pas connu son père. Elle ne sait rien en dire, en tout cas. Sa mère a eu plusieurs compagnons successifs. Et aujourd'hui encore, madame a des relations très très difficiles avec sa mère, qui a du mal, dit-elle, à respecter le point de vue de l'autre. Et qui, en plus, comme grand-mère, fait alliance avec les deux filles contre sa fille en donnant des permissions à ses petits-enfants que la mère ne veut pas donner, etc. Ce qui met madame en colère et qui fait qu'elle explose souvent quand elle est en présence de sa mère. Donc les deux parents souffrent d'un manque de reconnaissance de leurs propres parents, mais pour des raisons différentes. Il y a un problème de différenciation qui ne s'est pas construite. Alors, ce qui me frappe d'emblée dans les relations parents-enfants et entre les enfants, c'est un rapport de force qui existe pour imposer sa volonté. C'est comme s'il n'y avait pas de loi de la relation. En consultation, Myrti arrache un objet de la main de l'une, ou l'une pousse sa sœur pour prendre sa place sur le petit banc où on peut dessiner. Et voilà, il n'y a pas de parole dite par les parents autre que « arrêtez ». Arrêtez, voilà. Alors quand on est dans des rapports de force dans une famille et que la loi de la relation n'est pas énoncée, on va dire qu'il y a un problème de différenciation, parce qu'il faut que cette loi soit posée pour qu'on puisse être chacun à sa place. Donc ça, la différenciation, on en parlera encore la semaine prochaine. C'est un autre pilier de la systémique, Murray Bowen, qui a introduit ce concept et qui dit qu'au plus il y a de l'indifférenciation dans une communauté ou une famille, au plus il y a un risque de pathologie mentale au niveau individuel aussi, pas simplement au niveau du groupe. Alors, pour se différencier, pour Bowen, c'est être capable de réagir avec son cœur et son intelligence en même temps. Pouvoir exprimer à l'autre son point de vue calmement, en étant juste par rapport à ses émotions, mais en le liant à une pensée intellectuelle aussi, à une intelligence relationnelle. Quand on ne sait pas faire ça, on a tendance à trianguler la relation, c'est-à-dire à faire des alliances contre. Hein, donc les enfants font des, dans la famille dont on parle, les enfants font des alliances avec la grand-mère contre la mère. Hein. Dans un groupe classe, par exemple, on peut voir des petits clans qui se forment contre un autre groupe ou contre un enfant qui est bouc émissaire. Hein, donc dans un couple, si un des deux va se confier à son ami de toutes les difficultés qu'on vit dans le couple et que ça fait une alliance fusionnelle contre le conjoint, ben voilà, il y a un problème de différenciation. Hein, donc toutes les alliances contre, les coalitions contre, signent des problèmes de différenciation dans la relation. Alors chez les femmes, c'est plus au niveau émotionnel que ça va se passer. Mais chez les hommes, c'est peut-être moins apparent, mais ça se passe au niveau intellectuel. Hein, on peut avoir des groupes d'hommes où on pense tous la même chose, ou alors si on n'est pas d'accord avec le point de vue du groupe, on risque de se faire exclure. Ou alors il y a des clans qui s'affrontent, etc. Donc la triangulation peut aussi se faire du côté intellectuel. Hein, et que ce travail de lien entre le vécu émotionnel et ce qu'on pense ne se fait pas, mais dans l'autre sens. Donc dans la famille de l'une, chacun essaye de forcer l'autre à lui obéir en imposant ses émotions. Tu dois faire ça parce que j'en ai envie, point. Il n'y a pas d'autre justification. La maman agit un petit peu aussi comme ça. C'est moi qui décide. Comment est-ce qu'on va apprendre à se parler calmement, avec distance et fermeté, sans intrusion physique? Comment remettre la loi à la bonne place? Une loi qui peut se dire en parole par les deux parents, qui peuvent montrer aussi qu'ils en vivent déjà, puisqu'elle permet alors au couple de ne pas se dévorer mutuellement. Une loi qui permet la coupure, la différenciation, pour qu'une communion soit possible, plutôt qu'une fusion. Une alliance au service des enfants et non pas contre eux. Alors, dans ce travail familial qui alterne des séances tous ensemble avec les enfants, et puis des moments où je vois les parents à deux, à un moment donné, la maman de l'une me dit que l'une lui a confié son désir d'être un garçon. Alors je lui dis, et vous lui avez répondu quoi? Mais je lui dis que je comprenais très bien qu'elle ait envie d'être un garçon, mais qu'à son âge, elle ne pouvait pas choisir. Mais j'ai dit qu'à 18 ans, par contre, elle pourrait choisir. Alors je n'ai pas contrôlé ma réaction émotionnelle, et donc je n'ai pas fait ce travail de différenciation et de lier mon intelligence avec ses émotions, et j'ai provoqué que la maman fonde en larmes parce que j'ai réagi en disant « Non, vous lui avez dit ça ?» Bon, la maman a fondu en larmes en me disant « Quoi, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est très important pour moi, ce sont mes valeurs, je veux que mes enfants soient libres, j'ai eu tellement de mal à le devenir, je veux donner à mes enfants des valeurs de tolérance et de liberté. » Bon, je dis « Excusez-moi madame, je suis vraiment désolée de ma réaction, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai réagi comme ça. Et on va essayer de se comprendre. Et vous monsieur, je demande au papa, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et le papa me dit « Je partage les mêmes valeurs que mon épouse, mais l'une ne m'a pas parlé de son désir d'être un garçon, et je ne sais pas très bien ce que je lui répondrais si elle m'en parlait. » Sans doute que je dirais quelque chose du genre « Bon, écoute, on verra ça plus tard. Hein. » Alors je dis « Bon, alors je vais vous expliquer quand même ma réaction émotionnelle. » Et à partir des mots de ma pensée de psy. Et donc, je vais vous dire ce que j'ai dit à ses parents. Je leur ai dit « Écoutez, ma réaction émotionnelle, elle vient d'une angoisse, elle vient d'une peur qu'a provoqué votre réponse à l'une. » J'ai peur que vous lui proposiez de passer trop vite à l'acte de transformer son corps sans prendre le temps d'analyser ce qu'elle veut dire, quel est son désir en profondeur. Le désir qui vient parfois spontanément, c'est souvent une illusion de solution à un problème d'angoisse qu'on n'imagine pas pouvoir solutionner autrement. Mais si on fonce trop vite dans une mise en acte de ce désir, on peut se tromper de chemin et provoquer d'autres problèmes. Et donc je voudrais qu'on prenne le temps ensemble, si vous voulez bien, je dis aux parents, de comprendre le désir de votre enfant avant de lui proposer un chemin de transformation de son corps. Il ne s'agit pas de permettre ou d'interdire, mais de l'aider à trouver ce qu'elle désire vraiment et ce qui lui fait peur. Donc voilà, dans cet exemple, on voit qui a ce mythe de la liberté et de la tolérance, qui est très très important pour les deux parents, qui est un mythe très présent dans notre société actuelle. C'est aussi le mythe de ce couple qui a souffert de ne pas exister vraiment pour leurs propres parents, qui n'avaient pas de place pour leurs désirs propres. Donc ça a un enjeu très important aussi dans leur histoire personnelle. Ils n'ont pas pu dire « je voudrais autre chose que toi, papa, maman ». Non, ils n'ont pas eu droit à ça. Et puis on voit très bien aussi le conflit mythique et moi qui, malgré ma formation, réagis aussi parfois à partir de mes émotions. Et où je ressens, comme tout le monde, à certains moments, en tout cas dans ce cas-ci, de la peur pour cette petite fille, et peut-être une idée qui me passe par la tête, de dire « mais non, mais c'est complètement fou de dire ça à un enfant ». Voilà, donc je suis en train de juger, ce qui évidemment risque de casser complètement la relation et le travail thérapeutique qu'on peut faire ensemble. Alors, on ne naît pas homme ou femme, on le devient en relation. Ça, c'est un mythe dans notre société, mais s'il y a quelque chose que je peux partager dans ce mythe aussi, hein, parce qu'au niveau psychologique, on sait bien qu'on est avec un corps de petit garçon ou un corps de petite fille, mais qu'il faudra toute une vie pour habiter ce corps de fille ou de garçon avec nos propres désirs. Hein. Tout n'est pas fait à la naissance d'un point de vue génétique. Et donc, on a un entretien de famille avec la petite Lune, et je lui demande, la maman reprend l'histoire dont on a parlé, et lui dit, j'ai expliqué au docteur ce que tu m'as dit, et voilà, on a dit qu'on allait réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, explique-nous pourquoi tu voudrais devenir un garçon. Et elle répond... Parce que je veux un zizi pour faire pipi sur Myrtille quand elle m'embête. Alors je lui dis donc tu veux un zizi revolver, hein, parce que tu sais pas comment te défendre. Bon, alors on a ri tous ensemble et je pense les parents se sont rendus compte que effectivement le désir de Lune n'avait peut-être pas grand chose avec le fait de devenir un homme et de passer par un chirurgien pour ça. Mais qu'il fallait qu'on parle des conflits, des rapports de force dans la famille et qu'on voit comment on pouvait aider l'une à se défendre par la parole et Myrtille à attaquer si elle voulait attaquer, mais par la parole aussi et mettre un interdit du passage à l'acte justement dans cette famille. Voilà, alors ça c'est dans l'enfance, les conflits mythiques, les conflits aussi qui peuvent exister en thérapie. À l'adolescence, quelque chose que je voulais partager avec vous avant de donner la parole à Bernard sur ces questions de conflits mythiques, c'est que je suis particulièrement touchée et préoccupée par les difficultés que peuvent vivre les adolescents chrétiens dans notre société. Le conflit mythique entre l'Église et la culture est très compliqué à vivre pour eux, puisque normalement, comme on l'a vu dans le film La famille Bélier et comme on le verra aussi dans le deuxième film, un adolescent doit trouver sa place dans la société en partageant quelque part le mythe de cette société. Il ne peut pas être pris dans un clivage où il n'y a pas de possibilité d'entrer dans la société sans trahir ses parents. Hein, donc comment un adolescent chrétien va trouver sa place dans la société sans avoir l'impression de trahir sa famille ou sa religion, etc. Et donc là j'observe différentes difficultés suivant la façon dont les familles fonctionnent. Et ce que j'ai pu observer c'est que les jeunes qui ont reçu de leurs parents surtout des interdits particulièrement par rapport à la sexualité, qui ont reçu où l'accent a été mis sur ce qui est interdit, il y a quelque chose qui se passe comme si c'était le désir d'aimer qui était barré, hein, comme une peur d'aimer, une peur de désirer, qui peut les empêcher de quitter leur famille ou de trouver vraiment quelqu'un en qui ils pourront avoir confiance pour construire un couple. Par contre, lorsque l'accent dans l'éducation chrétienne a été mis sur la foi, sur la confiance en Dieu, sur le fait que la vie est un cheminement qui prend du temps, qu'il faut trouver aussi ses propres valeurs, son discernement, etc. Eh bien, les jeunes s'inscrivent dans la société, fonctionnent comme tous les jeunes de leur âge et vont redécouvrir la loi et la morale et les règles morales à partir du moment où ils souffriront de certains actes qu'ils posent. Hein? Donc il y a ces deux extrêmes, et puis il y a aussi des situations évidemment où ça se passe bien, mais ce que je voulais dire, c'est que quand on pose un interdit, il faut réfléchir aussi à la manière dont on accompagne les jeunes dans cet interdit. Il faut réfléchir au fait que cet interdit ne les colle pas à leur famille d'origine, dans une impossibilité de se différencier et de trouver sa place dans la société. Parce que sinon, il n'y a que deux solutions. Soit je pars quand même, mais je me sens en rupture avec ma famille d'origine. Et ça, c'est compliqué. On le verra pourquoi au niveau de la loyauté. Soit je régresse. Hein, et je colle aux valeurs de mes parents, mais il y a quelque chose dans la différenciation qui ne va pas se construire. Voilà, donc il y a un défi particulièrement compliqué actuellement pour les familles chrétiennes, pour l'Église. Et la question, c'est comment rejoindre chaque être humain là où il est et construire avec lui petit à petit un chemin de vie en témoignant de notre propre vie et de comment nous, on résout ce grand écart entre le fonctionnement de la société et ce que nous croyons. Alors, il faut quitter son père et sa mère pour pouvoir fonder une nouvelle famille. Hein? Alors, comment transmettre des valeurs sans être des parents intrusifs, contrôlants ou infantilisants? Comment dire ce que nous croyons, les vérités dans lesquelles on croit, mais en étant à une juste place relationnelle, c'est-à-dire en attendant le bon moment, en réfléchissant aux questions que les jeunes se posent, sans prendre les devants peut-être sur ces questions, etc. Et donc en conclusion, pour sortir d'un conflit mythique, il faut chercher à comprendre les croyances de l'autre et ouvrir des nouveaux chemins qui vont permettre une différenciation sans rupture de lien. Et dans les familles, voilà, quand le processus de différenciation est en panne, il faudra peut-être faire appel aussi à des tiers, hein, qui vont pouvoir écouter les vraies questions qui se cachent derrière les conflits mythiques qui peuvent se passer entre parents et adolescents. Et donc la question que je vais poser à Bernard pour la suite de l'exposé, c'est: est-ce que tu penses que dans le domaine de la foi et de la morale, on peut éduquer les jeunes à la liberté?
Voilà, à partir de ce que Dominique vous a déjà dit, et à partir de la question qu'elle vient de poser, je vais essayer de faire un petit développement théologique, si on veut, et spirituel. Vous avez votre feuille de route. Alors, quand vous entendez parler Dominique, vous entendez des mots comme différenciation, par exemple, ou triangulation, etc. Bon, ben, ce sont aussi des concepts opératoires, hein. Évidemment, ça vient dans un vocabulaire peut-être un peu spécialisé, mais ce ne sont pas des mots, je dirais, qu'elle a choisi ou que nous allons choisir simplement parce que, voilà, maintenant c'est utile. C'est vraiment des concepts, et quand vous voyez que je le reprends et que j'essaie de l'élaborer autrement, etc., dites-vous bien que, voilà, ce sont des choses qui, lorsqu'on les a bien comprises, permettent de constituer comme des points de référence pour notre réflexion. Alors Dominique me demande si dans le domaine de la foi et de la morale, on peut éduquer les jeunes à la liberté. L'éducation à la liberté, dans le domaine de la foi et de la morale. Alors d'abord, je prends les mots foi et morale. Je pense que notre religion chrétienne catholique, c'est évidemment une question de foi et de morale, mais pas seulement. je place une description, si on veut, de la religion avec quatre dimensions. Et la foi, c'est la deuxième, la morale, c'est la troisième, et donc il y a une première et une quatrième. Hein. Et c'est important de voir la religion dans cet ensemble. D'ailleurs, ce n'est pas sans rapport avec les triangles et les dimensions anthropologiques que j'ai déjà développées. Et on essaie d'avoir quelque chose de cohérent. Je crois qu'être chrétien, c'est peut-être d'abord s'inscrire dans une histoire. C'est s'inscrire dans une tradition, dans l'histoire de l'Église, dans la tradition chrétienne de sa famille, par le baptême par exemple. Ou si l'on est un converti, eh bien c'est une décision prise librement de s'inscrire dans cette histoire, cette grande histoire d'une communauté humaine, au milieu de l'humanité. Et donc il y a un fait. Hein, on s'inscrit dans une histoire. Cette histoire du passé, donc, cette histoire qui avance, eh bien, on reçoit beaucoup. Et on reçoit notamment, eh bien, des éléments de foi. Et par le cœur, le psychisme, par l'intelligence, on adhère à la foi de l'Église. On trouve que c'est cohérent, on trouve que c'est bien, on trouve que ça donne sens. Mais, ça c'est la foi, il y a un pas de plus, c'est la morale, c'est l'agir, en général. Donc le chrétien, il agit en fonction de cette histoire et de cette foi. Ça, c'est ce qui donne non seulement sens, mais ce qui donne vie. Hein. Pas seulement le sens pour l'intelligence, mais vie pour tout. Hein, pour le corps, pour le psychisme, pour l'esprit. Mais la religion n'est pas non plus seulement une morale. Hein. Vous n'êtes pas un bon chrétien lorsque vous êtes un homme ou une femme qui accomplit la morale de l'Église. Il y a beaucoup plus encore. La morale, c'est le troisième point. Je crois que le quatrième point, c'est pour un chrétien d'être emporté dans une espérance de communion spirituelle avec Dieu et avec l'humanité en Jésus-Christ, dès ici-bas, par exemple dans les célébrations, les fêtes liturgiques, par la prière, et plus tard dans l'au-delà, auprès de Dieu. Et donc c'est cette quatrième dimension, je dirais, beaucoup plus... festive, beaucoup plus eschatologique, comme on dit, mystique éventuellement, hein, qui fait partie aussi de la religion chrétienne. Donc une histoire, oui, une foi qui s'adresse à l'intelligence, pas seulement bien sûr, une morale qui est un agir, mais pas un agir pour ici-bas, un agir à partir d'ici-bas et pour l'éternité. Voilà, alors quelques difficultés de famille chrétienne. Ben, j'en ai relevé quatre. Hein. J'ai rencontré plusieurs jeunes, des jeunes femmes surtout, mais pas seulement, qui désirent se marier et qui veulent se marier avec un chrétien, avec quelqu'un qui a la foi. C'est là un critère important pour eux, pour elles. Il y a même des sites de rencontres chrétiennes spécialisées, hein, où les gens qui s'inscrivent disent qu'ils ont la foi, etc. Mais aujourd'hui, la minorité chrétienne, il faut bien le dire, est tellement réduite qu'il n'est pas facile, hein, de trouver un fiancé, une fiancée chrétienne et d'en tomber amoureux. Parfois, on tombe plus facilement amoureux de quelqu'un qui n'a pas la foi. Ah oui, mais comme il n'a pas la foi, alors je ne peux pas me marier avec parce que bon, je suis amoureux, amoureuse, mais bon, il manque quelque chose. Bon. Parfois... Alors on se pose des questions, est-ce qu'il faut le faire ou pas, etc. Bon. Parfois, on se force un peu à se marier avec quelqu'un qui a la foi, mais la passion amoureuse n'est pas tout à fait là. Hein. On dit, mais enfin, il est chrétien, elle est chrétienne, donc ça ira. Bon, ça ira, d'accord. Ça ira, hein. Mais est-ce que dans les deux cas, il n'y a pas un peu un manque d'intégration? Je ne dis pas que c'est facile d'intégrer, hein. Mais je dirais par rapport à nos schémas, est-ce que... Il n'y a pas une difficulté à agir un peu de manière clivée, dirait-on. Hein? Celui qui dit, mais il faut absolument que la personne soit chrétienne, hein? Mais alors pour le reste, tant pis, on verra. Hein? Ben, je trouve qu'on agit un peu comme ça en disant que la foi, c'est quelque chose qui vient au-dessus et qui n'a pas grand-chose à voir avec les niveaux inférieurs, enfin inférieurs, pas nécessairement au niveau... De la valeur, hein, au niveau de... Tandis que, quand on essaye vraiment d'intégrer, je crois que on est dans ce schéma-ci, hein, où ce qui est spirituel a vraiment une influence sur l'intelligence, sur le psychisme, sur le corps. à ce moment-là, je dirais, ben, on est amoureux, on sait pourquoi, et on est d'accord spirituellement. C'est évidemment ce schéma-ci qui est le bon schéma, le schéma idéal. Hein, c'est de pouvoir intégrer spirituellement. Je crois que c'est important de montrer que quand on a vraiment une foi spirituelle, on a une autre conception du corps, une autre conception du psychisme, une autre conception de l'intelligence, de la philosophie, de la morale, etc. Hein? Pas nécessairement en contradiction, il y a quand même une partie commune, hein? Mais voilà, c'est un autre type d'intégration. Un autre problème que peuvent rencontrer des familles chrétiennes, eh bien, Dominique l'a dit, hein, il y a des familles qui basent leur éducation sur la loi, sur les règles, sur ce qu'il faut faire ou pas faire, ce qui est interdit, etc. Et d'autres davantage sur la confiance. Alors, ce n'est pas évidemment tout d'un côté ou tout de l'autre, bien sûr, hein, c'est un continuum entre les deux, mais quand même, on peut remarquer cela. La loi imposée aux adolescents, aux jeunes, est toujours quelque chose d'un peu forcé. Et si ce n'est pas bien enraciné dans tout un contexte affectif de confiance, etc., on risque d'obéir et un jour peut-être de tout rejeter. Hein? Et parce que le point d'attache ici n'est pas assez fort, hein? Tandis qu'ici le point d'attache c'est tout cela. Pour reprendre un peu l'image. Hein? Dans la famille Bélier par exemple, eh bien je crois que c'est une famille qui est basée sur la confiance. Mais la confiance est un peu embêtant aussi parce qu'on peut alors manipuler la confiance. Hein? On peut abuser de la confiance. Hein? Vous faites confiance à vos enfants, mais ils vont faire des bêtises. Donc, il faut limiter la confiance. Ben, c'est ça le dilemme. Par exemple, dans la famille Bélier, on voit que pour Paula, donc, qui est la seule entendante avec son père, sa mère et son frère qui n'entendent pas, qui sont sourds-muets, eh bien, ce n'est pas du tout un problème pour ses parents qu'elle aille retrouver son amoureux. Et donc, elle prétend tous les soirs aller retrouver son amoureux. Et bon, ben, les parents acceptent. Mais en fait, elle ne va pas voir son amoureux. Elle va suivre un cours de chant. Mais pour elle, expliquer à ses parents qu'elle va suivre un cours de chant, eux qui sont sourds-muets, ben, ça ne va pas. Elle a l'impression que ce serait vraiment quelque chose qu'on ne peut pas dire, enfin, qui va casser quelque chose. Donc, vous voyez, elle fait quelque chose que dans d'autres familles, peut-être, on interdirait. Mais là, on le permet. Mais son problème est ailleurs. Hein? Son problème est de trahir ses parents en allant faire un cours de chant. Vous comprenez, hein? Quoi ça sert quand on est sourd-muet? Bon. Un troisième point, c'est par exemple, dans des mouvements du renouveau aujourd'hui, où il y a des hommes, des femmes, des couples, des familles, etc., certains parents qui ont élevé leurs enfants devenus grands, sont invités parfois à s'engager dans le mouvement de manière plus communautaire, plus religieuse. Voilà, les enfants volent de leurs propres ailes, c'est très bien, on a fait tout ce qu'il fallait. Eh bien, donc, ils n'ont plus besoin de nous. Nous pouvons nous retirer et vivre comme des moines ou des moniales. C'est par exemple l'argument d'un film qui s'appelle « L'abbaye du revoir ». Là, ce n'est pas un couple, c'est un homme veuf, hein, si je me souviens bien. Qui décide, eh bien, puisque ses enfants sont mariés, ben d'entrer au couvent, voilà, au monastère, à l'abbaye. Et d'ailleurs, il va peut-être avoir des responsabilités, parce que c'est un homme qui a une certaine consistance. Mais est-ce que c'est bien d'abandonner aussi son rôle de père et de grand-père, en prenant une toute autre orientation qui le coupe quand même, hein, de certaines relations? Il ne faut pas oublier qu'on est parents pour toujours. Même si les enfants peuvent voler de leurs propres ailes, et c'est une excellente chose d'ailleurs, tout le monde le sait bien, la disponibilité des parents est souhaitable à un autre niveau. Pas nécessairement pour donner le biberon, évidemment, hein, mais pour dialoguer, pour aider à prendre des décisions, pour appuyer, pour passer des moments difficiles. Et même s'il n'y a aucune difficulté, s'il n'y a pas de problème, c'est aussi peut-être l'occasion d'une croissance ensemble dans ce partage mutuel, qui est de l'ordre du surcroît, hein, lorsque les parents et les enfants, beaux-fils, belles-filles, etc., sont capables de parler de toutes les choses de la vie, eh bien, c'est un surcroît, c'est une joie, c'est un bonheur pour chacun. Ce n'est pas une réponse à des nécessités strictes, mais peut-être que les parents doivent penser que c'est important aussi. Hein. Quand on est parent, on a une responsabilité relationnelle qui dure toute la vie. Toute la vie. Et même pour les divorcés, la responsabilité parentale subsiste. Un couple parental peut survivre au divorce du couple conjugal. C'est ce que nous allons voir dans le film, par exemple, Ne m'abandonne pas. J'anticipe pas davantage, mais là on voit un couple divorcé qui, lorsque un enfant a un problème, eh bien, retrouve une connivence et une collaboration pour aider leur enfant. Voilà, c'est une chose évidemment qu'on va discuter dans un autre cours. Le couple parental, le couple conjugal, c'est pas autre chose, mais c'est quand même différent et c'est bien d'être capable de distinguer pour mieux analyser. Et au fond, ce que je viens de dire pour le couple parental conjugal, c'est évidemment un problème, c'est le quatrième que je relève, des familles recomposées. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent à vivre leur foi, la transmettre à l'intérieur des complications de familles recomposées. Alors voilà, comment fait-on dans ces familles compliquées? Alors analogiquement, il y a toujours eu des familles recomposées. Pourquoi? Parce que à cause de, pas nécessairement de divorce, mais à cause de décès, à cause des guerres, à cause des familles, disons, trop nombreuses, à cause des difficultés matérielles, eh bien les familles se recomposaient un petit peu différemment. Mais c'est tout autre chose de devoir quitter sa famille parce que le père est décédé ou parce qu'il y a une famine, etc., que à cause d'un divorce. C'est tout à fait différent. Et d'ailleurs, Madame Streuf aussi, je crois, va prendre l'exemple dans un autre cours du cas de Edith Stein, comparé au cas de Catherine M., qui toutes les deux ont vécu des situations un peu semblables, apparemment, mais avec d'un côté un décès et de l'autre côté, ben voilà, la trahison des parents. Comment transmettre les valeurs chrétiennes? Comment éduquer à la liberté? Éduquer à la liberté, c'est évidemment un peu un paradoxe, parce que la liberté, c'est d'être libre. Éduquer, ben, c'est un peu de canaliser, de forcer à prendre le bon chemin. Comment fait-on? Préalable, le triangle d'alliance et non le triangle de la jalousie. Voilà, je vais faire un petit excursus. D'ailleurs, à propos de éduquer à la liberté, c'est le titre d'un numéro de la revue Communio, Éduquer la liberté, dans lequel Madame Streuf et moi-même avons écrit un article ensemble. C'est plutôt moi qui interroge Madame Dominique. L'intervention thérapeutique ou psychologique éduque-t-elle à la liberté? Voilà, il y a quelques exemplaires ici pour avoir après. Le paradoxe de l'éducation chrétienne, c'est donc éduquer, ça veut dire conduire, doucherer, conduire, et en même temps à la liberté. Comment fait-on? Eh bien, je crois que la chose importante, c'est de ne pas proposer l'éducation aux valeurs comme un duel, mais comme un triangle d'alliance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, éduquer, ce n'est pas dire à un jeune, ben voilà, tu es là, toi, alors voilà les valeurs, tu vois, ben, elles sont élevées, elles sont sérieuses, elles sont importantes, ben, tu dois t'y soumettre, tu dois les appliquer, tu dois accomplir et tout ça. Et maintenant, voilà, chacun est responsable de lui-même, chacun a sa conscience, tu vois les valeurs, je te les montre, ben, débrouille-toi maintenant pour les accomplir. Dans un duel, dans un duo entre la loi et lui. Comme Dominique nous l'a déjà expliqué avec les passeurs d'angoisse, il faut toujours un troisième. Il faut toujours un troisième. C'est une grande règle de la psychologie, en tout cas systémique. Il faut toujours un troisième. Et même, on verra. Et même plusieurs troisièmes. L'enfant, face à la difficulté, apprend à la surmonter sans trop d'angoisse s'il y a un troisième, un passeur d'angoisse qui l'aide à faire ce travail. Eh bien, je crois que pour l'éducation, c'est la même chose. L'éducation n'est pas un drill de mettre quelqu'un face à des valeurs, face à une morale, et puis de lui dire « vas-y, mets ton casque et fonce, parce que ça va être difficile. » Mais c'est au contraire de l'intégrer dans un système où soi-même, on vit ses valeurs, premièrement. Et deuxièmement, on va aider la personne à les vivre, parce que nous allons les vivre ensemble. Souvenez-vous de éthique relationnelle, éthique de responsabilité relationnelle. Et donc il faut, par rapport aux valeurs, je dirais, créer un triangle. Tu vois la loi, eh bien je la respecte ou j'essaye de la respecter, je t'invite à la respecter, et nous deux, nous allons vivre ensemble selon cette loi. Nous allons régler nos rapports selon cette loi. La loi est un troisième, mais moi aussi je suis, par rapport à toi et la loi, je suis un tiers, un troisième, pour t'aider. Alors je fais ici un petit résumé de ce que, qui se trouve dans notre livre et que, qui a été un petit peu raccourci au premier cours parce qu'on n'avait pas le temps. Mais les quatre stades du développement psychique nous proposent toutes les relations de base que un enfant vit et qu'il va répéter comme adolescent, comme adulte, et que nous-mêmes, comme adultes, lorsque nous prenons certaines décisions ou sommes dans certaines situations, nous retrouvons. Alors vous voyez que Dominique vous a surtout parlé de la première relation, la relation fusionnelle, qui se détache lorsque l'enfant, vers 8 mois, a ses angoisses de séparation, et il faut lui expliquer que même si on est séparés, on n'est pas loin de l'autre, on est ensemble, avec l'image mentale, souvenez-vous, de l'enfant qui garde l'image de sa mère dans sa tête. Et donc, un premier travail, c'est de défusionner. Les deux qui ne faisaient qu'un doivent vraiment être deux. Et donc, on passe alors à une relation à deux, mais souvent dans un lien excessif, le lien de dépendance. Après, à l'âge du non, ça tout le monde se souvient qu'on a eu des enfants qui disaient non à tout. Parce qu'après la dépendance, c'est l'opposition. Pour bien montrer qu'on est deux, moi je dis non à tout. Comme ça, l'autre voit que je suis quelque chose, quelqu'un, quoi, capable de prendre une décision, même les mauvaises. Veux-tu un bonbon ? Non. Je le voudrais bien quand même. Maintenant que j'ai dit non, comment est-ce que je fais, quoi, Voilà. Après la dépendance, l'opposition, et puis vers 3, 4, 5 ans, là, il y a toute la question du triangle édipien, nous dit Freud, où le troisième apparaît, dans la relation qui est avant est un peu duel. Et ce troisième, alors qu'est-ce qu'il est ce troisième ? Il est un allié ou il est un perturbateur ? Dans la relation de l'enfant avec sa mère, principalement. Évidemment, tout ça est un peu schématique, bien sûr, mais le troisième qui apparaît, comment est-ce que je le considère ? Il vient m'embêter, parce que moi je suis très bien avec ma mère, ou bien il est un allié de ma mère, ouais, je le vois bien, malheureusement, mais de moi, est-ce qu'il va l'être, ou bien est-ce qu'il va m'écraser dans cette relation, parce qu'il a l'air comme assez fort, là, qu'est-ce que je vais faire ? Donc c'est toute cette question que je raccourcis ici, bien sûr, mais qui fait que quand on entre dans une relation triangulaire, il y a un moment négatif, si on veut, qui est le moment de la jalousie. On tient à la relation duel, on ne veut pas entrer dans une relation triangulaire d'alliance. La relation d'alliance, c'est quoi ? C'est de dire un pour tous et tous pour un. Et mieux les deux autres s'entendent, plus ça me fera du bien. Et inversement, plus je m'entends bien avec mon père, plus ma mère est contente, et plus je m'entends bien avec ma mère, plus mon père est content, et plus on s'aime tous. Donc win-win dans toutes les relations. Avec l'introduction, souvenez-vous, de non seulement la relation au père et la mère, mais à la relation qu'il y a entre les deux. Très important. Et je crois qu'une fois que l'enfant a compris cela, compris pas tellement avec son intelligence, mais avec son cœur, avec son psychisme, lorsqu'il a compris ça, lorsqu'il a intégré cette capacité de ne pas être jaloux, mais de construire des alliances, des multi-alliances, ce schéma peut se multiplier à l'infini et se répète partout. Quelqu'un qui est jaloux, il sera jaloux dans toutes les relations, professionnelles, religieuses, tout ce que vous voulez, mais quelqu'un qui est en alliance, il essaye d'être alliance partout, en famille, au football, partout, en musique, il est en alliance, Alors, parfois ça coince parce que celui-là quand même il a de sa tête, ou bien vraiment il me fait de l'ombre, donc on régresse un peu, mais grosso modo quand même, c'est un schéma de travail, dans lequel on n'est d'ailleurs pas figé, on repasse un peu toutes les étapes, à l'adolescence par exemple, on repasse un peu toutes les étapes, il y a les bonnes amitiés fusionnelles, on se téléphone 35 mails par jour ou plus, c'est très peu ça d'ailleurs. Ou SMS plutôt, la fusion, et puis petit à petit, on doit apprendre de nouveau à ouvrir. Voilà, et cela joue dans toutes les types de relations que nous aurons plus tard, dans la famille, mais lorsque on est avec son fiancé, qu'est-ce que Dieu par rapport à mon fiancé, par rapport à moi, hein? Dans un institut d'enseignement, dans un club de musique, etc., partout, hein, peut se jouer ces relations triangulaires, bonnes ou mauvaises. Alors en psychologie, d'habitude, quand on dit triangulation, c'est une mauvaise triangulation, hein, plutôt de jalousie, etc., de rivalité, et quand on dit alliance, ben, c'est la bonne triangulation. Mais voilà, donc les mots sont un peu utilisés de manière spécifique. Eh bien, je crois que éduquer, c'est transmettre une loi. C'est partager une vision du monde, c'est proposer des idéaux à ses enfants, à ses étudiants, etc. C'est aussi placer des interdits. Dominique vous en a déjà un peu parlé. Des interdits qui interdisent, mais au fond qui donnent aussi une place à chacun, une place possible, une place obligatoire ou une place réservée. Mais il faut être bien conscient que dans notre éthique de responsabilité relationnelle, transmettre une loi, partager une vision du monde, placer un interdit, c'est aussi prendre une responsabilité. Il ne suffit pas de dire « voilà la loi, tu te débrouilles ». Celui qui prend sur lui d'interdire quelque chose ou d'imposer quelque chose, eh bien, il endosse une double responsabilité. Et la première, c'est de respecter lui-même sa loi. Cette loi en triangle. Moi aussi, j'obéis à cette loi. Et donc, c'est pour ça que je te la propose. Parce que c'est très beau dire « il faut faire ça et ne pas le faire soi-même ». C'est la meilleure manière, bien sûr, pour que ça rate. Et pourtant, on sait bien que psychologiquement, plus on monte dans certains types de hiérarchie, plus on se croit au-dessus de la loi. On le sait bien. D'abord, on est là, on va faire ceci, on va faire des bonnes lois, on va tous obéir à la loi. Et puis, plus on a de pouvoir, plus on dit même, vous, mais moi, je suis au-dessus de la loi, bien sûr, puisque je les ai faites. Donc ça, c'est un danger, et un danger extrêmement grave et extrêmement nocif pour ceux que l'on éduque. C'est de se placer soi-même au-dessus de la loi. Attention à ceux qui montent trop haut. Il y a un proverbe américain, mais je ne vais pas le citer ici, certains le connaissent peut-être. Alors, voilà. Donc, respecter soi-même cette loi, c'est essentiel. Et aider l'autre à comprendre cette loi, à la mettre en œuvre librement, pas forcée, en l'adaptant à son cas, parce que les adolescents d'aujourd'hui ne vivent pas du tout ce que moi j'ai vécu dans mon adolescence, encore moins mes parents bien sûr. Les enfants sont différents, mes parents sans doute n'ont jamais entendu parler de gender pendant leur adolescence, moi non plus d'ailleurs. Mais voilà, maintenant les enfants, ils parlent de ça à 6 ans ou à 8 ans, c'est le pain quotidien. Oui, dans les écoles, je vous assure que parfois, y a, dans les cours de récréation, c'est incroyable ce qu'on entend. Je ne dis pas que tout le monde parle tout le temps de ça, mais ça fait partie de ce dont on parle, La responsabilité numéro 2, celle d'aider la personne à comprendre et à pratiquer cette loi, ce n'est pas, comme l'a dit Dominique aussi, contrôler, vérifier, forcer, être derrière en vérifiant si, en effet, c'est pas ça, aider quelqu'un. Il faut faire confiance, même si parfois, on peut être trompé dans cette confiance, mais alors il faut remettre les choses au point. Et on est très tenté de faire certains chantages, évidemment, quand on est poussé dans ces retranchements, lorsqu'on entre vraiment en conflit mythique avec ses propres enfants, etc. Je te coupe les vivres si tu vas vivre avec ton copain, quoi. Alors là, alors on est mis vraiment devant une réalité brute. Et est-ce qu'on va obéir à la loi ou pas? Alors, comme a dit Dominique, ou bien on s'en va, on quitte, ou bien on vit contraint, quoi. Ce sont des dilemmes, il faut faire attention à ce genre d'attitude, c'est pas très facile de s'en sortir, mais il faut sans doute dialoguer à trois, pas à deux, mais à trois. Transmettre une valeur, donc, placer un interdit, c'est vraiment assumer une responsabilité. Alors, il ne faut pas placer cette loi si haut, qu'elle soit impossible à vivre, en disant, attention, c'est le pape qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit, etc. Attention, il faut aussi montrer que ça a un sens, même si le pape ne l'avait pas dit, ça a aussi un sens pour nous maintenant ici. Il faut être des passeurs, non seulement des passeurs d'angoisse, mais des passeurs de la loi. Voilà, des passeurs de la loi. Aider les jeunes à vivre cela. Alors ça ne veut pas dire, puisque je parle d'éthique de responsabilité relationnelle, qu'on est responsable de tout, hein, qu'on est responsable universel. Matthieu 25, hein, vous m'avez vu affamé, nu, etc. Donc maintenant, moi, je ne peux plus aller dans la rue parce que j'en vois tellement, et je ne sais plus quoi faire. Hein, si je suis responsable de tout, de tous les malheurs de la vie, ben, mais non, ça c'est pas possible non plus. Hein. Il y a un discernement à faire. Je crois que il y a des limites. Hein. Il y a des places dans lesquelles je suis et des places dans lesquelles je ne suis pas. Hein. Je fais ce que je peux, ce que je dois et même plus éventuellement, mais aussi dans les limites que je ne resserre pas trop évidemment sur mon égoïsme, bien sûr, mais dans les limites qui sont les miennes. Hein. Que votre charité se fasse inventive. Il faut aussi discerner. C'est un grand mot dans la spiritualité ignatienne. Il faut discerner ce que je suis appelé à faire, ce que je peux ou je me sens obligé de faire. Et il ne faut pas tout faire. Hein. Choisir ce qu'on veut faire, eh bien, c'est aussi, d'une certaine manière, ne pas tout faire. Et il faut aider les autres à se responsabiliser d'autres choses. Hein. Et il faut aussi, par exemple, ben, si quelqu'un vous demande une aide, etc., responsabiliser la personne de sa propre demande. Hein. Il ne faut pas que cette demande aille dans tous les sens et qu'on demande tout. C'est un discernement, voilà, où il faut, sous la motion de l'esprit, et en réfléchissant psychologiquement et aussi intellectuellement et aussi spirituellement, bien sûr, eh bien, essayer de trouver notre juste place dans cette responsabilité que nous avons. Et Paul dit quelque part que chacun donne librement et joyeusement ce qu'il a décidé dans son cœur. Et Jean Chrysostome, par exemple, qui, sur n'importe quel sujet, parvient à vous dire qu'il faut aider les pauvres, hein, parce que Chrysostome, c'est vraiment hein, l'apôtre et le père de l'Église des pauvres. Vous pouvez lui donner n'importe quel sujet. Hein, il terminera par... Donc, hein, ça voulait dire qu'il faut aider les pauvres. Hein. Eh bien, il dit que voilà, le couple est... La famille et sa boîte, avec les aumônes qu'on met dans la boîte et qu'on donne ce qu'on a décidé de donner. Voilà. On décide à l'avance et c'est une habitude constante, mais ça donne aussi l'idée que voilà, hein, on sait ce qu'on fait et on décide de faire cela et pas autre chose. Et le plus grand danger dans notre Église actuellement, c'est sans doute le clivage. Le clivage par rapport à cette loi, hein, un clivage personnel, en disant bon, ben, y a la loi, d'accord, mais il y a ma vie privée aussi, et ça communique pas très bien là, mais voilà, enfin bon, en tout cas à l'extérieur, il faut que la loi soit sauve. Institutionnellement aussi, hein, institutionnellement, voilà, nous savons tous bien qu'il y a des choses qui marchent pas, mais bon, on se cache les uns derrière les autres et on dit que tout va bien. Le grand danger de ce clivage, hein. Je crois aussi qu'il ne faut pas opposer radicalement les systèmes de morale, comme parfois on l'a fait quand même classiquement dans l'Église, me semble-t-il. Il faut les intégrer dans une vision d'éthique de responsabilité relationnelle, et relationnelle veut aussi dire institutionnelle. Hein. On a souvent dit, ben voilà, la morale c'est ceci, hein, ça c'est clair et net, hein, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Et alors il y a tout le reste, bien sûr, il y a des circonstances, il y a des conséquences et tout, mais le conséquentialisme c'est très mauvais, hein, parce que le conséquentialisme c'est cette doctrine morale qui consiste à dire, bon, voilà tel acte, quelles sont ses conséquences? Eh bien, bien sûr, il y a des conséquences positives et d'autres négatives, on fait le calcul et on fait là où il y a le plus de conséquences positives. C'est le conséquentialisme. Mais je crois que tout le monde fait du conséquentialisme constamment, hein. Et même les animaux, hein, ont une intelligence suffisante pour faire leurs calculs sur les conséquences. Hein. Et ils choisissent bien sûr la meilleure solution. Hein. Nous sommes tous comme ça. Et je crois que c'est le moteur de beaucoup de choses qui sont excellentes. Le problème, je dirais, se situe à lorsqu'on a fait ce calcul, est-ce qu'il n'y a pas des principes qui sont encore supérieurs à cela? Mais il faut faire ces calculs. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui... ou des moyens, par exemple, qui eh bien, nous rebuteraient. Autrefois, en morale, on disait qu'il y a des actes voilà, qui ne posent pas de problème, et il y en a quelques-uns qui sont des actes à double effet. Quelques-uns sont des actes à double effet. Alors on étudiait précisément ces actes à double effet, mais Peter Knauer, qui est un jésuite qui a vécu ici pas très loin, a écrit un article il y a bien longtemps disant que tous les actes sont à double effet, et même à triple et quadruple effet. Donc c'est pas du tout une exception, tout est comme ça. Et il faut bien sûr réfléchir aux conséquences, mais ne pas simplement appliquer le calcul de manière cynique. Aujourd'hui, il y a pas mal de philosophes cyniques dans notre société. J'en connais quelques-uns qui écrivent des choses absolument horribles. Je ne vais pas citer leurs noms parce que sinon, on allait les lire ça par priorité. Mais vous en connaissez peut-être. Hein. Oui, aujourd'hui, il y a vraiment des philosophes cyniques dans notre société. Hein. Et ils incitent vraiment leurs lecteurs à ne faire aucun quartier, à ne pas se préoccuper de telle et telle dimension morale qui est ridicule. Enfin, on part vers le transhumanisme et tout ça, et puis voilà, il y a les vainqueurs et les vaincus, tant pis, ben voilà. Donc, nous, je crois, il faut essayer d'intégrer beaucoup de réflexions, aussi des sciences humaines qui n'ont rien d'économique ou de moral, comme la psychologie, et trouver la juste place, faire les bons calculs, et puis aussi choisir vraiment avec des principes qui dépassent ces calculs. Mais je crois que pour réfléchir à tout ça, il ne faut pas le faire sèchement, hein, en disant, bon ben voilà le premier concept, voilà le deuxième concept. Je crois qu'il faut le faire à partir d'un matériel symbolique. Dominique vous en a déjà souvent parlé, et je prends aussi ce concept très au sérieux. On réfléchit beaucoup mieux, je pense, lorsqu'on a un matériel symbolique et pas seulement conceptuel. Alors symbolique, c'est pas nécessairement... ça intègre beaucoup de choses, le symbole, mais ça intègre davantage l'émotion. Ce n'est pas nécessairement irrationnel, loin de là. Hein. Il y a quelque chose de, parfois, de suprarationnel dans le symbole. Mais ça intègre davantage le corps, bien sûr. Hein. Lacan disait que le corps est l'archi-symbolisable. Tous nos symboles s'enracinent quelque part dans le corps. Et donc on a vraiment, je crois, avec le corps, quelque chose qui prend les quatre dimensions de l'être humain. Et bien sûr, dans la Bible, nous avons des tas de récits qui peuvent servir de matériel symbolique, même si ces récits sont par ailleurs tout à fait historiques, véridiques, authentiques. Hein, mais voilà. L'histoire de Jésus, la vie de Jésus, je ne dis pas qu'elle est symbolique, mais tous les épisodes de sa vie peuvent nous faire réfléchir symboliquement à notre propre vie. Parce que imiter Jésus, ce n'est pas pour moi me faire pousser une barbe et me promener avec des sandales, ce n'est pas ça. Imiter Jésus, c'est bien autre chose. Hein. C'est symboliquement quelque chose de beaucoup plus profond. Et on ne sait pas s'identifier à Jésus tel quel, peut-être encore une femme moins qu'un homme, bien sûr, mais il y a pourtant beaucoup de choses à tirer de son comportement. Mais les films, eh bien, les films que nous faisons, ce n'est pas l'évangile du tout, hein, mais c'est un matériel symbolique contemporain, voilà, qui nous montre un peu quels sont les mythes aujourd'hui et quelles sont les convictions que certaines personnes ont, y réfléchies ou non, mais qui ont toutes sortes de conséquences. Donc les trois films que nous verrons d'ailleurs concernent tous des jeunes gens, et même des très jeunes gens. Hein. Donc je crois que dans les trois films, on a des personnes qui ont moins de 20 ans, et qui sont le héros ou la héroïne principale. Merci. Alors je vous...